Bonjour Sandra, et ça fait plaisir de vous voir ce matin. À titre personnel, voilà, mon opération il y a un mois s'est bien déroulée, tout ce qui devait être enlevé a été enlevé. Et en fait, je souris en y pensant parce que je sais que Jacqueline aime bien me tirer les oreilles, donc comme ça elle pourra le faire encore. Excuse-moi Jacqueline pour cette petite blague privée, mais c'était, je ne pouvais pas m'empêcher. Vous avez entendu parler cette semaine d'un truc incroyable, ça s'appelle l'intelligence artificielle. Alors c'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est que on a accès depuis quelques jours à un site en ligne pour tester ce qu'est l'intelligence artificielle. Donc je vous annonce qu'à partir de demain, je n'ai plus de travail, puisqu'en fait l'enseignement est remplacé par une intelligence artificielle. C'est assez hallucinant. Je voulais juste vous dire entre nous comme ça que le message que je vous ai donné ce matin, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'intelligence artificielle. J'ai simplement mis 2 Corinthiens 6, 7 et puis voilà, c'est ce qui est sorti. David, tu pourras voir que toi aussi tu as des soucis à te faire. Mis à part cette petite blague, c'est vraiment, vraiment impressionnant. C'est une sacrée révolution qui est devant nous. Cependant, il y a une chose qui ne changera pas et que l'intelligence artificielle ne peut pas faire, c'est de transformer notre cœur et de toucher notre cœur. Elle peut nous apporter des connaissances, des informations, nous permettre d'aller plus vite dans certains process, mais elle ne peut pas transformer notre cœur. Et ce dont j'aimerais parler avec vous ce matin, dans 2 Corinthiens 6 et 7, pour poursuivre cette série que nous avons commencée depuis le début de l'année, c'est la joie profonde de Paul. Juste pour rappeler ce qu'est 2 Corinthiens, c'est un livre dans lequel Paul s'adresse à une église qui a des difficultés, qui a de la peine à entendre et à mettre en pratique ce que Paul aimerait leur dire, et une église à qui Paul s'évertue d'expliquer que la solution pour pouvoir vivre une vie épanouie ne repose pas dans l'intelligence, dans la richesse ou dans la sagesse et la matérialité, mais elle repose uniquement dans ce que Christ a fait pour eux. Dans les chapitres 1 à 7, Paul se réconcilie avec les Corinthiens qu'il a pu froisser. Chapitre 8 à 9, il va parler de la générosité et stimuler les Corinthiens à être généreux. Et enfin, chapitre 10 à 13, il va parler de son défi ultime et de ses difficultés personnelles. Nous, on est toujours dans cette première section, chapitre 1 à 7, et le passage que nous allons aborder ce matin, versets chapitres 6 et 7, est donc la conclusion de ces chapitres 1 à 7 et la transition vers la section suivante du livre de 2 Corinthiens. Pour aller plus précisément sur ce chapitre 6 et 7 de 2 Corinthiens, Paul insiste sur son autorité en tant qu'apôtre, sa légitimité et le fait que ce qu'il dit, et il le dit pour le bien des Corinthiens. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il le dit en exposant sa relation personnelle avec Dieu, en leur montrant clairement ce qui le motive, ce qui lui donne envie d'aller de l'avant avec Dieu, et pourquoi cela le pousse jusqu'à reprocher des choses aux Corinthiens. J'ai une tendance naturelle à vouloir dire à des personnes qui m'entourent ce qu'elles font bien ou pas, comment elles pourraient faire mieux, etc. Et parfois, c'est pas toujours bien pris, à mon grand étonnement. Paul passe son temps dans ses chapitres 6 et 7 à expliquer pourquoi il est légitime pour dire ce qu'il a à dire aux Corinthiens. Et même si des personnes lui renvoient à la tête qu'il ferait mieux de se taire et qu'il n'a rien à leur dire, eh bien, vous allez voir que sa démonstration, elle est extraordinaire et que ce qu'il dit vaut la peine d'être entendu. Alors, le fil rouge pour moi de ces chapitres 6 et 7, c'est la joie. La joie profonde de Paul. D'abord, on va voir que cette joie de Paul, elle est présente dans la détresse. Deuxièmement, que c'est une joie qui est en fait inatteignable. Et enfin, que cette joie, elle trouve sa source, de manière inattendue, dans la tristesse. La joie profonde de Paul est d'abord visible dans la détresse. Je vous propose de prendre la première partie du chapitre 6, versets 3 à 10. Et j'aimerais lire ce passage. En rien et pour personne, nous ne voulons représenter un obstacle afin que notre service soit sans reproche. Au contraire, nous nous recommandons nous-mêmes à tout point de vue comme serviteurs de Dieu par une grande persévérance dans les souffrances, les détresses, les angoisses, sous les coups, dans les prisons, les émeutes, les travaux pénibles, les privations de sommeil et de nourriture. Nous nous recommandons aussi par la pureté, la connaissance, la patience, la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Que ce soit au milieu de la gloire ou du déshonneur, au milieu d'une mauvaise ou d'une bonne réputation. Nous sommes considérés comme des imposteurs, quoique disant la vérité, comme des inconnus, quoique bien connus, comme des mourants, et pourtant nous vivons. Nous sommes comme condamnés, et pourtant pas mis à mort, comme attristés, et pourtant nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et pourtant nous en enrichissons beaucoup, comme n'ayant rien, alors que nous possédons tout. Vous voyez comment Paul décrit la réalité de sa vie de manière très précise, ses difficultés. Et en même temps, il a cette espérance suprême qu'il exprime. Il parle de ses circonstances terribles, mais en même temps, il dit qu'il est toujours joyeux. Et j'aimerais m'arrêter sur ce verset 10 qui dit « comme attristé, et pourtant nous sommes toujours joyeux ». Paul insiste sur ce paradoxe pour justement souligner à quel point son service et son reproche, comment il peut se recommander en tant que serviteur de Dieu. Alors, on pourrait dire que les souffrances s'appliquent à chaque être humain. Ça, c'est un fait qui est universel. Il peut y avoir certaines souffrances qui peuvent être propres aux chrétiens. Paul dit dans 2 Timothée 3:12, hein, du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Donc il y a une souffrance particulière à celui qui est chrétien. Même si on pourrait le rapprocher avec d'autres personnes qui peuvent être victimes de discrimination et persécutées pour d'autres raisons. En fait, dans la vie de tout être humain, croyant ou pas, il y a de la souffrance. D'ailleurs, c'est assez frappant de voir qu'un petit enfant peut pleurer de la frustration qu'il ressent parce qu'il n'obtient pas quelque chose et rigoler en même temps, surtout quand il est très fatigué. Et c'est drôle, surtout pour nous, pas pour lui, mais c'est possible. Plus sérieusement, pour un adulte, c'est possible d'être dans une profonde tristesse et en même temps de pouvoir se réjouir pour quelque chose. Je vous donne un exemple. Pensez au président de l'Ukraine, Zelensky, qui est complètement abattu, triste à cause de ce que vit son pays. Et en même temps, lorsqu'il entend que les Américains lui rajoutent des milliards ou que les Français lui envoient des chars, eh bien, il est content et c'est une joie au milieu de sa tristesse. Alors, l'application de cet exemple à votre vie personnelle est peut-être un peu compliquée. Mais vous comprenez l'idée, on a parfois des contextes compliqués de vie, mais on peut recevoir de bonnes nouvelles et se réjouir au milieu de notre tristesse. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à Paul, c'est un fait universel. Il y a des moments où cette joie et cette tristesse mélangées sont présentes dans nos vies, de manière plus ou moins intense et de manière plus ou moins particulière. Cependant, dans toute la description que fait Paul ici, on ne peut que être frappé que ce que Paul vit est plus qu'une simple joie particulière. C'est plus qu'une joie humaine. C'est quoi la particularité de cette joie de Paul? D'où vient cette joie? Et comment obtenir cette joie? Eh bien, c'est ce que j'aimerais vous proposer de voir dans ce deuxième texte, en s'intéressant à cette joie inatteignable de Paul. Comment expliquer que chaque être humain peut vivre cette situation de joie et de tristesse mélangée, et que Paul, pourtant, vit quelque chose qui nous semble au-delà de ce qui est habituel et de ce qui est humain. Chapitre 6, verset 14, à chapitre 7, verset 1. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre le Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et chapitre 7, verset 1. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Dans les premiers versets 14 à 17, juste pour remettre dans le contexte de ce passage, Paul est confronté à des personnes qui le dénigrent, qui le calomnient, qui le diffament et qui disent aux Corinthiens « Arrêtez de suivre Paul, suivez-moi ». Donc, dans le contexte, cette séparation à laquelle Paul appelle, c'est une séparation de ceux qui n'enseignent pas la vérité, de ceux qui diffament Paul et de ceux qui s'opposent à son discours et à l'évangile. Je ferme cette parenthèse. J'aimerais m'arrêter sur le verset 1 du chapitre 7. « Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. » C'est quoi la motivation de Paul pour aller vers la sainteté dans la crainte de Dieu? Pour poser la question autrement, est-ce que Paul dit que nous devrions être saints pour que Dieu nous permette de bénéficier de ses promesses, ou est-ce que c'est parce que Dieu nous a donné ses promesses que nous devons être saints? Je me permets de faire un petit point théologique ici, sur un concept qui s'appelle les indicatifs et les impératifs de la grâce. Les indicatifs, c'est les faits que nous connaissons au sujet de Dieu, au sujet de Christ, ce qu'il a fait pour nous. Par exemple, Dieu m'aime, voilà, ça c'est un fait, c'est une réalité, et c'est un indicatif. Les impératifs, c'est tout ce qui concerne des demandes. Comment nous répondons en obéissance à ce que Dieu nous demande? Dans ce texte ici, on le voit au verset 17, par exemple, au verset 16, lorsqu'il est dit « J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Ça, c'est un indicatif. Dieu garantie d'habiter avec son peuple. Et verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, je caillerai. Ça, c'est de l'impératif. C'est une action à mener. Illustration pour comprendre un peu mieux ce que cela signifie. Pour Noël, tu as reçu un cadeau. De personnes qui t'aiment beaucoup, ils t'ont proposé d'aller faire un saut à l'élastique. Alors, l'idée, c'est que tu es donc au sommet d'un pont, tu as une corde qui est accrochée au bout des pieds, et puis il faut sauter. Et là, toutes les personnes qui t'aiment sont là avec toi pour te dire « Ouais, 10, 9, 8. » On pourrait illustrer ça aussi autrement en disant « Sauve un parachute. » Ou encore, un autre exemple, on te propose un vol en hélicoptère. « Waouh, génial !» Sauf que ce qu'on ne t'a pas dit, c'est qu'on te dépose au sommet d'une montagne verticale. Quand tu penches la tête, en fait, tu vois tes pieds, puis tu vois le bas de la pente, en fait, et tu dois descendre en ski, mais en fait, tu ne sais pas bien skier. Qu'est-ce que tu fais? Tu sautes ou tu sautes pas? Tu descends cette pente ou tu descends pas? Eh bien, c'est exactement ce que sont les indicatifs et les impératifs. Dieu, quelque part, nous dit, bah, vas-y, saute! Ça va bien se passer. L'élastique, il est accroché. C'est moi qui l'ai accroché. Mais est-ce que je vais faire confiance dans cet indicatif que Dieu me donne? Est-ce que je vais mettre en action la promesse que Dieu me fait que l'élastique, c'est bon, ça va bien se passer? Que le parachute, il va bien s'ouvrir. Que la descente en ski, ça... Tu sais juste une chose, en fait. C'est que pourquoi tu le fais? Pourquoi tu sautes? Parce qu'en fait, il y a quelqu'un d'autre qui l'a déjà fait et qui est toujours vivant. Tu sais que lui a réussi, donc il a montré la voie. Les impératifs, c'est donc nos réponses à la vérité de ce que Dieu a fait et nous a révélé en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est celui qui a accompli toutes les promesses de Dieu. Lorsqu'il est mort à la croix, il nous a démontré par son sacrifice que si Dieu nous dit « Je t'aime », c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il est mort pour nous, mais surtout parce que lorsqu'il est mort à la croix, Dieu ne l'a pas abandonné, il est ressuscité 3 jours après. Et quelle plus grande preuve de la puissance et de l'amour de Dieu pour nous que d'avoir ressuscité notre Sauveur? Les impératifs, c'est notre réponse à cet amour extraordinaire de ce que Christ a manifesté à la croix. Et c'est l'expression de notre confiance dans les indicatifs, dans toutes les promesses, dans toutes les réalités que Dieu affirme dans sa parole au sujet de qui il est et au sujet de ce qu'il a fait pour nous. Bref, vous avez compris que toute cette histoire, c'est une histoire de relation avec Dieu. Dieu a initié une relation avec nous en nous réconciliant avec lui, de telle sorte à ce que nous puissions répondre positivement à cette demande de relation et nous aussi faire cette démarche de réconciliation avec lui. Je vous donne un exemple pour illustrer ça avec un texte qu'on a déjà vu ensemble dans 2 Corinthiens 5, mais qui est une bonne illustration. 2 Corinthiens 5, 18 et 19 nous dit: et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ici, c'est de l'indicatif de la grâce ou c'est l'impératif de la grâce? C'est l'indicatif de la grâce. C'est ce que Dieu a fait une fois pour toutes et c'est une réalité qui est disponible pour nous. Dieu par Christ, a fait ce qu'il fallait pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Et l'impératif, c'est quoi? Verset 20, « Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Tout est là, tout est prêt, tout est disponible pour que je sois réconcilié avec Dieu. Christ a tout fait. Il me reste, moi, à faire le choix de dire: oui, Seigneur, je veux être réconcilié avec toi et je crois dans ce que Christ a fait. Et je trouve cette réflexion intéressante sur ce qu'est la grâce. La grâce, c'est tout ce que Dieu nous donne alors que nous ne le méritons pas. Et quel est le lien avec ce que nous venons d'expliquer sur la joie profonde de Paul? C'est que Paul, en fait, a une joie qui est surnaturelle, une joie qui est inatteignable. Parce qu'elle ne provient pas de ses propres qualités, de sa structure mentale, de son éducation, de encore moins bien sûr des circonstances qu'il vit. Non, cette joie que Paul a, elle est le fruit de la réalité de la vie de Christ dans son cœur et dans sa vie. Autrement dit, même s'il n'a rien, même s'il est en difficulté, même s'il est en proie à la condamnation, Paul peut se réjouir parce que c'est l'œuvre de Dieu dans son cœur qui est à l'origine de cette joie. C'est le Saint-Esprit qui travaille en lui et qui le transforme. C'est pour ça que Paul peut être à la fois triste, mais se réjouissant toujours. Et ce qui est formidable, c'est que cette joie que Paul nous décrit ici, c'est une joie qui le transforme. Et j'aimerais vous proposer de voir cette troisième idée, la tristesse, source inattendue de la joie de Paul. Et on va lire au chapitre 7, versets 8 à 10. Même si je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Et si je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a momentanément attristé, je me réjouis maintenant, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a amené à changer l'attitude, car vous avez été attristé selon Dieu, si bien que vous n'avez subi aucun dommage de notre part. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Paul, dans ce passage, distingue deux tristesses. La tristesse selon Dieu, verset 10, et la tristesse du monde, avec deux conséquences différentes. La tristesse selon Dieu, elle conduit au salut, on la regrette jamais. La tristesse du monde produit la mort. Pour résumer, en gros, la tristesse selon Dieu produit la joie. Ce qui est paradoxal et que j'aimerais expliquer maintenant. Qu'est-ce que la tristesse selon Dieu ? Au verset 9, il est question d'un changement d'attitude. Au verset 10, il est question d'une tristesse qui produit une repentance. Qu'est-ce que la repentance ? La repentance, c'est lorsque l'on regrette quelque chose que l'on a fait qui a attristé Dieu ou qui ne correspond pas à ce que Dieu aime. Et la repentance, c'est regretter dans ce qu'on a fait qui attriste Dieu et c'est faire le choix de se conduire autrement. C'est donc bien un changement d'attitude. C'est quoi la différence entre la repentance que l'on voit ici et puis cette tristesse du monde qui produit la mort ? Bien, tout simplement parce que la tristesse du monde, c'est la tristesse que l'on ressent lorsque on fait quelque chose qui fait qu'on ne se sent plus aimé. Lorsque l'on fait quelque chose qui fait qu'on n'a plus l'attention des gens autour de soi. Notre orgueil est touché, notre amour propre est remis en cause et on a besoin de regagner l'approbation des gens et de faire tout ce qu'il faut pour gagner l'approbation des gens. Sauf que parfois c'est impossible, ou parfois très compliqué, voire même ça nécessite des compromis. La tristesse selon Dieu n'est pas une tristesse de compromis, c'est simplement reconnaître ce que Dieu me dit sur l'état de mon cœur, sur les choses qui doivent être mises en règle avec lui, et que je choisis de lui confesser, de mettre en règle avec lui. L'apôtre Jean illustre bien cela dans son épître, chapitre 1, verset 9, lorsqu'il dit « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner, et de telle sorte à ce que nous puissions être réconciliés avec lui. » Alors, pour faire encore une distinction plus claire entre cette tristesse selon Dieu, ce qu'elle produit, et puis la tristesse du monde, c'est que bien souvent, il y a une citation de Tolstoï qui résume ça en fait. Chacun pense bien à ce qu'on pourrait faire pour changer l'humanité, mais personne ne pense à ce qu'il pourrait faire pour se changer soi-même. La tristesse selon Dieu, elle invite à un changement de cœur intérieur, alors que la tristesse du monde consiste à vouloir en effet changer les personnes autour de soi. On voit donc que la tristesse, c'est-à-dire ce que Dieu pointe dans le cœur de Paul et lui montre qu'il doit corriger, loin de l'abattre ou encore de l'humilier, produit chez lui, chez Paul, la possibilité d'une libération. Et Paul connaît donc une joie libératrice qui lui permet de confesser ses péchés, de poursuivre sa réconciliation avec Dieu et de pouvoir garder une relation ferme avec Dieu. Conclusion. Paul nous dit ici au chapitre 7, verset 4, « J'ai une grande confiance en vous, chers Corinthiens. J'ai toute raison d'être fier de vous. Je suis pleinement réconforté, débordant de joie au milieu de toutes nos difficultés. » Pourquoi est-ce qu'il a une grande confiance dans les Corinthiens? Alors que pourtant, au verset 1 du chapitre 6, il affirme « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. » Paul ici est en train de dire que ça y est, la grâce de Dieu chez les Corinthiens est en train d'avoir des résultats. « J'ai une grande confiance en vous et je suis pleinement réconforté. » Pourquoi ? Parce que Paul n'a pas vu personnellement les Corinthiens, mais il a envoyé un de ses fidèles compagnons de service qui s'appelle Tite, et qui est allé les voir et qui est revenu donner de bonnes nouvelles à Paul. Verset 13, nous avons été beaucoup plus encore réjouis de constater la joie de Tite qui a eu l'esprit tranquillisé par vous tous. Et son affection pour vous est d'autant plus grande quand il se souvient de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez réservé avec crainte et profond respect. Je me réjouis de pouvoir entièrement compter sur vous. » Ce que Paul est en train de nous dire ici, avec l'illustration des Corinthiens, que schématiquement on peut considérer comme une église compliquée, avec des problèmes, etc., c'est que Dieu est capable de transformer une église, de transformer des cœurs, de transformer les membres d'une église, et de les rendre, d'en faire des bénéficiaires de la grâce de Dieu. Et quel encouragement pour nous ce matin de réaliser que la joie de Paul, c'est une joie profonde que l'on peut connaître même dans des circonstances compliquées, mais c'est une joie qui est inatteignable par nos propres forces. La seule personne qui nous rend bénéficiaire de cette joie extraordinaire, c'est Jésus-Christ et l'œuvre qu'il fait dans notre cœur par le Saint-Esprit aujourd'hui. Et cette joie profonde, on peut l'entretenir en étant au bénéfice de la tristesse que Dieu peut produire dans notre cœur, à savoir cet encouragement que Dieu nous donne chaque jour de venir vers lui pour lui confesser tout ce que nous pouvons faire qui lui déplaît et qui nous éloigne de lui. Bref, pour entretenir notre relation avec lui. Et que cette joie profonde, comme elle a transformé les Corinthiens, eh bien qu'elle puisse aussi nous transformer. Et vous savez ce qui va se passer avec cette joie profonde qui va nous transformer? Eh bien, comme Paul a été encouragé par les Corinthiens, eh bien nous allons nous encourager les uns les autres. Et nous allons aussi encourager d'autres personnes qui ont besoin d'être motivées et d'être soutenues dans leur foi. La joie de Paul dans la détresse, elle est inatteignable sans Christ. Mais grâce à Christ, elle me transforme et elle est de plus en plus profonde en moi et elle peut dépasser toutes les circonstances. Amen.